Il y a réduction au niveau de Dieu. Ça vous dirait à imiter Dieu, mais le cas.
Bon, ça c'est le principe général de toute la Mishnah.
Non, mais dans les explications, à limiter au point de vue des midot. Dina, c'est-à-dire le niveau de différence entre les êtres et le niveau de la famille, c'est une des midot dans le monde de Dieu. Donc ça reviendrait à réduire, à limiter Dieu.
Ah non, et d'abord, dans la deuxième formule, Mipenesh et Aussé Midotav, c'est la Kadrobaoku, Rahamim, Benani, Lakzerot, il ne s'agit pas de se limiter à une seule des Midot, la Midata Rahamim, il s'agit de considérer que toutes les Midot sont Rahamim, c'est-à-dire que la motivation des commandements est une motivation affective, résulte d'une émotion et non pas d'une décision de la volonté. Regarde bien la formule. Chez Aussé Midotav, au pluriel, kol midotav shel hakadosh baruch hu et rahamim ve'enan ela gzerot. Et je voudrais d'abord distinguer les deux, montrer bien la différence entre les deux systèmes d'explication. Et ensuite on recherchera le point commun. Le premier système consiste à dire mipene shemetiv kina ve'maase ve'reshit, parce que le fait de mettre en évidence le caractère sélectif de la providence par rapport à telle ou telle catégorie de créatures, dans notre cas le Kansipo, qui est d'ailleurs, du point de vue de la motivation profonde de cette hérésie, un symbole pris pour Israël. Je ne me souviens pas si nous avons beaucoup parlé de cela, mais enfin, j'y ai fait allusion. Et donc, il y a une sorte de rupture de la perspective universaliste du monothéisme de la Torah. Cette catégorie, Mipenei Shemetiv Kina, Bemaase Bereshit. Ça veut dire, c'est comme si Israël s'adresse au dieu de l'oiseau, mais que ça veut dire le dieu d'Israël. Et il y a donc une rupture de cette catégorie de l'universel. Donc c'est au niveau de Dieu créateur. Dans le deuxième système d'explication, c'est que on va définir le taram des mitzvot, parce qu'il y a une mitzvah concernant la conduite que l'homme doit avoir vis-à-vis du kansipo, du nid de l'oiseau. Hier, nous avons longuement réfléchi à ce sujet. Il ne s'agit pas d'une miséricorde, sinon au second degré, mais d'une miséricorde pour la mère des petits du nid, mais pour le nid lui-même. Vous vous rappelez de ça? C'était la discussion entre Narmanide et Magna sur ce point. Et donc, le deuxième système d'explication fait appel à un tout autre principe. C'est parce que ça consiste à définir la motivation des commandements de la Torah à un niveau d'une émotion et non pas à un niveau de décision de la volonté. Donc apparemment, ce sont deux explications très différentes. Okay? Mais est-ce qu'il n'y a pas un point commun? Alors, le principe que tu viens d'évoquer est un peu trop général. C'est le principe général de la Mishnah elle-même, dans les différentes formules. Mais en ce qui concerne cette formule en particulier...
Je voulais dire que lorsqu'on ramène une mitzvah à Rachamim, on exclut d'autres mitzvot, on exclut din, par exemple. Ça consiste à dire que le terme des mitzvot n'est pas basé, par exemple, sur din, mais uniquement sur Rachamim. Donc c'est en cela que je disais qu'il y a une
non, là, nous sommes peut-être gênés par une question de vocabulaire. Il faut d'abord retenir le fait qu'il y a le pluriel. Midotav, ça veut dire toutes les midot. Mais ici, dans ce contexte, les midot, ça veut dire les mitzvot elles-mêmes. Chez Rosé, midotav, chez la Kadosh Baruch Hu, rachamim venan la gzerot. Ça veut dire qu'il définit la manière dont Dieu gère, dirige son monde midotav. Par exemple, dans l'expression kol midotav, chez la Kadosh Baruch Hu, mida keneged mida. C'est-à-dire que la mitzvah exprime la relation de la volonté du Créateur pour la gestion du monde. Et donc, c'est un pluriel général qui implique toutes les mitzvot, midotav. Et le fait qu'il y ait, d'autre part, une des catégories des attributs de la relation de Providence, qui soit la midat hadin, n'empêcherait pas, dans cette hypothèse, qu'elle soit motivée par Rachamim. Le fait que Dieu se conduise avec ses créatures dans la modalité de la rigueur peut procéder d'une intention ultime de Rachamim. Est-ce que c'est bien clair? Par exemple, lorsque nous disons, je donnerai l'exemple de la mida inverse, que Gavar alenu chasdo, inversé, Gavar alenu chasdo. Gavar renvoie à Gevura, et pourtant, il y a donc Gevura chez Bechesed. la Midat Hadin peut être motivée par le Rachamim. C'est-à-dire lorsqu'il y a une sanction, une punition, eh bien, en fin de compte, la motivation de la punition, c'est l'amour. Pour prendre cette idée. Et ici, c'est la différence des deux catégories. Au niveau de la volonté, est-ce que la volonté est motivée par une émotion ou bien est-ce qu'elle est motivée par une décision, un décret, etc. La différence entre Rachamim, je veux parce que j'ai un désir, ou bien Gezera, je veux parce que je me réfère à un ordre de vérité. Bon, ça c'est pour le système d'explication en lui-même. Tu es dans cette explication, ce qui gêne, c'est le mot Rachamecha. Al-Kansipor Yagiru Rachamecha. C'est ce mot Rachamecha qui est discuté par la Gemara. Parce que tu as pu formuler une telle phrase dans ta prière, parce que tu as cru, tu as supposé que s'il y a une mitzvah sur le Kansipor, c'est parce que Dieu a Rachamim particulière sur le Kansipor. Alors c'est pas pour ça que cette mitzvah a été donnée. C'est pour enseigner à l'homme l'apprentissage de Rachamim. Okay? Donc il y a une gzera. La mitzvah est une gzera, est une décision de la volonté et non pas le résultat d'une émotion. Bon. Donc ce sont vraiment deux systèmes différents. Mais quel est le point commun?
C'est toujours en vue de l'éducation de l'homme.
Comment?
C'est toujours en vue de l'éducation de l'homme.
Non, je veux dire quel est le point commun des deux explications que la Gemara donne pour expliquer qu'une telle phrase est refusée dans la formulation de la prière.
Dans les deux cas, ça fait un sentiment. Dans les deux cas, ça fait appel au sentiment. Non, Kina est de l'ordre également du sentiment.
Non, ça c'est la Kina qui devrait entre les...
Oui, mais d'accord, mais donc c'est
dans... Après, prenons la catégorie.
Dans les deux cas, on déplace le problème en le remplaçant par une relation affective.
Non, prenons la catégorie d'abstraction de cette première explication, parce que ça veut dire que ça introduit une différence de valeur aux yeux du Créateur, au niveau des créatures. D'un côté, l'oiseau et moi qui prie le Dieu de l'oiseau, enfin, je m'explique, le Dieu dont je sais qu'il a miséricorde particulière sur le nid de l'oiseau, et de l'autre côté, les autres créatures. Donc ce serait au second degré qu'il y en eut une préférence. Or, c'est réel. C'est vrai qu'il y a des hiérarchies. Non, simplement là, oui.
Il s'agit ici, comme dit Rachid, en fait, d'une mitzvah.
Plus fort.
Il s'agit ici d'une mitzvah dans les deux cas.
Comment dans les deux cas? Bon, dans l'explication de Rachid, c'est sur la deuxième explication.
Midotav,
c'est une sorte d'exérence. Oui, Rachid explique sur la deuxième explication, oui. Pas sur la première.
Oui, mais on pourrait peut-être trouver ici aussi l'explication, le point commun avec la première.
Comment?
La fin, il dit Avidvarim, chez Satan, Belakoum, le Rachid Balem, le Omar, Matsorek, de Mitzvazo.
Donc tout ça se rattache au deuxième système d'explication. Nous allons étudier ce rachis en détail, puisque vous l'avez cité. Et qu'est-ce que tu veux dire exactement? Bon, vous verrez tout à l'heure, la réponse est très simple. Et puis, finalement, il faut chercher le principe de l'explication dans le sujet même de la Mishnah. La raison générale de la Mishnah, c'est qu'on veut exclure toute tentation d'une notion de dualisme. Regardez bien les trois formules. Al-Kansipor Yagiru Rachamecha, c'est celle qui est en question dans l'étude. Ensuite, Al-Tov Yitzacher Shemecha. La Gemara dit Al-Tov Velo Al-Tova Velo Al-Ra'a, donc dualisme. Modim, modim, répétition, donc dualisme. Donc c'est à l'intérieur de la catégorie de dualisme qu'il faut chercher le point commun des deux explications sur Ha'omer Al-Kansipor. Mais avant d'y arriver, ça vous donnera le temps de réfléchir si vous voulez. Prenez Rashi sur le mot Midotav. On va le lire attentivement. Vous l'avez là-haut, la page, ici, Midotav. Alors, la formule dit ceci. Chaosé, midotav, shelakadosh baruch hu, rachamim, venan, et lakzeot. Parce que cette formule transforme, fait de des mesures que prend Dieu, des décisions que prend Dieu. Et ici, il faut l'entendre, lorsqu'il exprime sa volonté pour la conduite humaine, c'est-à-dire les mitzvot de la Torah. Et il y a une mitzvah de la Torah qui recommande à l'homme de se conduire d'une manière particulière vis-à-vis du nid de l'autre. Et qui fait donc de sa midot, rachamim, une émotion de sentiment, alors qu'elles ne sont que des décisions. Vénin et l'agzeh. Alors voici comment Rashi nous guide dans cette lecture. Midotav, mitzvotav. Les midot, ça veut dire les mitzvot. Vehu, lo rachamim, lo le rachamim, asa, et là, les a-t-il à l'Israël, chouke xerotav. Et si Dieu nous a donné cette mitzvah de se conduire avec miséricorde pour l'homme par rapport au nid de l'oiseau, ce n'est pas parce qu'il a miséricorde sur le nid de l'oiseau, et là, mais les a-t-il à l'Israël, chouke xerotav. Mais pour placer sur Israël les lois de ses décisions, sa volonté. Et vous voyez que ici Rashi est très exactement dans le même système d'explication que Nachmani. Vous vous rappelez de ça, okay? Ça, c'est ce que nous avons étudié hier. Léodia, Shehem Avadav, pour faire connaître qu'ils sont ses serviteurs, qu'Israël sont des serviteurs de Dieu, mais Shomrei Mitzvotav, et qu'ils observent ses lois, ses commandements, les Xerot Rokotav, et les décisions de ses statuts, de ses volontés, Arf Bidvarim, même pour des cas, où il peut y avoir pour le Satan et pour les idolâtres, j'expliquerai ça après, les Hashiv Alehem, d'objecter contre Israël, les Bilvarim, les Hashiv Alehem, d'objecter contre les lois qu'observe Israël, Velomar, Matsorer, Bemidvadou, et de dire quelle nécessité il y a dans cette Mitzvah. Alors, voici quelle est la manière de l'explication de Rashi. C'est-à-dire que nous n'avons pas l'habitude d'interpréter la motivation des commandements. Or, toi, tu expliques cette Mishnah en te référant à un principe qui voudrait interpréter la motivation des commandements en disant que c'est une motivation de miséricorde. En réalité, nous ne devons témoigner que d'une obéissance aux décisions du Créateur qui nous a donné telle loi. Et ici, c'est très important de voir. Maïmonide va un peu plus loin que Rashi, mais je relis les deux perspectives. Ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas de raison. Mais nous risquons de nous tromper dans cette raison. C'est pourquoi la raison est cachée. Est-ce que c'est clair? Par exemple, ce que Maïmonide avait cité au nom d'une lecture possible de Maïmonide, ce que Nachmanide avait cité au nom d'une lecture possible de Maïmonide, de croire que c'est par miséricorde pour la mère du nid que cette mitzvah a été donnée. Alors que Nachmani l'objecte, non, c'est pas pour cela. Et nous avons trouvé toute une série d'argumentations hier à ce sujet, parce que s'il en était ainsi, on aurait tout simplement interdit de toucher au nid de l'oiseau, mais c'est pour enseigner à Israël une certaine manière de se conduire, à l'imitation de la loi du Créateur. Et lorsque je dis la loi du Créateur, ça ne signifie pas seulement la loi que le Créateur nous donne, mais la loi qui est la sienne. Regardez bien dans Rashi, il y a une inversion d'une formule qui est très importante. D'abord, il dit « Les a-t-il à l'Israël chouké xorotav ?» Les choukim de ses décisions. Quel chouké xorotav ? À la fin, il dit « Xerot choukotav » Les décisions de ses choukim. Est-ce que vous comprenez bien la différence. Et tout se passe comme si, il faut comprendre ça de la manière suivante, l'expression Torah Tachem. Torah Tachem. Torah Tachem, ça veut dire en première lecture la Torah que Dieu donne à ses créatures. Mais Torah Tachem, ça veut dire très littéralement la Torah de Dieu lui-même. Que Yachol, d'une certaine manière, on peut dire la Torah à laquelle il obéit. C'est la Torah à laquelle lui obéit, qu'il transmet à Israël, qui sont ses Ravadim, en apprentissage. Et par conséquent, lorsque le Satan et les Umota Olam objectent en demandant, en objectant, mais pourquoi vous conduisez-vous de cette manière? Pourquoi votre comportement a ces principes-là et pas d'autres? Alors, il n'y a pas à leur répondre d'après le motif de tel ou tel mitzvah, mais il faut leur répondre, ce sont des xérotes. Nous avons reçu une loi et nous nous plions à cette loi. Mais ça ne signifie pas que cette loi n'est pas de ta raison. Voilà donc, nous sommes très exactement dans la motivation pour laquelle la Gemara ici exclut directement cette deuxième thèse. Enfin, ma question était quand même différente. Vous comprenez que Rashi ne porte que sur la deuxième thèse. Quel est le point commun qu'il y a entre ces deux explications? Bon, donc je vais vous laisser la question en suspens, on la retrouvera à la fin du cours, réfléchissant. Alors nous continuons, si vous voulez, l'enseignement. Alors, nous sommes arrivés hier au premier enseignement de Rabba. Qui renforce d'ailleurs la deuxième thèse. Kama yada aitzova merabanan le retsuye le mare. Amar le rabaye vea meshatikinotot nan le rabanami echadude le rabaye houdime. Vous rappelez de cela? C'est-à-dire, quelqu'un était en train de prier devant Rabba et il a employé cette formule: toi dans la miséricorde va jusqu'au nid de l'oiseau, toi aie pitié de nous. Alors Rabba dit combien cette Tzorba Merabanan, ce brillant élève des rabbins, c'est Ratsouye les marais, intercéder auprès d'eux, obtenir l'agrément de son maître, c'est-à-dire de Dieu. Ça veut dire combien il connaît les stratégies qu'il faut employer pour obtenir ce qu'il y a à demander à lui. Mais cela implique. Et combien il connaît les intentions de la volonté de Dieu. En disant, toi qui as pitié du nid de l'oiseau, ça implique, alors tu sais cela, c'est un secret, tu le connais, que Dieu a pitié du nid de l'oiseau, combien il connaît la volonté de son maître. Abaye objecte, mais pourtant la Mishnah dit, il faut le faire taire. Or toi tu l'as félicité, d'une certaine manière. La Gemara répond, non, en réalité, Rabba veut expliquer à Abaye comment il faut le faire taire. Il faut le faire taire en lui expliquant pourquoi. Il a eu tort d'envoyer une telle. Il y a ici, si vous voulez, toute une indication de l'ordre pédagogique. Quelqu'un est en train de faire quelque chose d'interdit. Alors il ne suffit pas de lui dire la loi a dit que c'est interdit, tais-toi. Il faut lui expliquer quelle était son erreur. Alors nous avons son erreur. Deuxième cas. Haou dinchet kamed Rabbi Hanina. On cite le cas de quelqu'un qui priait devant Rabbi Hanina. Amar, et voilà ce qu'il disait dans sa prière. Ha'el, Agadol, Agibor, Vanora, Ve'adir, Ve'izuz, Ve'araoui.
Yaoui.
Yaoui. Et Chazak, Ve'amit, Ve'avadai, Ve'anichvat. Il a commencé toute une litanie, comme on dit en français, d'énumération, de louanges, d'énumération, de définition, puisque la louange, à la limite, c'est la définition. Des vertus, des midot, des attributs de Dieu. Il commence à dire dans sa prière qu'il invoque le Dieu grand, gadol, gibor, vaillant, nora, redoutable, adir, la même chose, fort, izouz, encore plus fort, ayaoui, que l'on doit craindre, et chazak, fort, ahamid, courageux, vadaï, évident, vrai, nirbad, honorable. Alors, Rabbi Hanina, donc il commence toute une litanie de louanges. Rabbi Hanina, il tino ad desayem. Rabbi Hanina a attendu jusqu'à ce qu'il finisse. Et nous verrons deux lectures à ce sujet. D'abord, il ne l'a pas interrompu, parce qu'il est en train de prier. Et deuxièmement, il l'attend à la fin, parce qu'il va lui objecter immédiatement qui sayem à Marler lorsqu'il a fini son énumération. Il lui dit, Rabbi Hanina dit à celui qui priait, Sayamtin ou le chulou chifre de marach, est-ce que tu as terminé de dire toute la louange de ton maître? Et voyez, de nouveau, deux lectures. C'est-à-dire, est-ce que tu as fini? Donc je t'interromps pas, je peux donc te dire que tu as mal fait d'entreprendre une telle énumération. Mais deuxièmement, ça veut dire, est-ce que tu as osé terminer, t'arrêter? Alors que tu entreprends d'énumérer la louange de Dieu, tu oses achever. Hein? Vous voyez sous quelle forme Rabbi Hanina va expliquer à celui qui prend l'initiative d'improviser, et cette initiative est une initiative de bonne foi, c'est une initiative de ferveur et de piété. Il est pris par l'enthousiasme de la formulation de la prière et il entreprend d'énumérer toute une série d'adjectifs. C'est un peu ce qu'on appelle en français une litanie. Et nous avons des piyutim comme cela d'ailleurs. Adirvous, ou bien, je n'ai plus en tête, par exemple, Miel Kamocha, vous avez énormément de piyutim de ce temps. Et en général, on multiplie les lettres de l'alphabet pour pouvoir ajouter des shvachim aux shvachim. Donc, les mali ou les haï, ça veut dire à quoi sert tout cela? C'est-à-dire qu'il y a une. L'initiative est une initiative de bonne foi, de bonne volonté, mais il y a là aussi un risque d'hérésie. C'est-à-dire ici, la Gemara élargit le sujet de la Mishnah à encore d'autres principes. C'est-à-dire le projet de la définition de Dieu est un projet impossible à l'homme. Tout de suite, la Gemara va expliquer. Anam, hanetlat de amrinam. Quant à nous, pour nous, anam, ces trois adjectifs que nous disons dans la formule de la prière. Ha'el, Agadol, Agibor, Ve'anora, les trois premiers. Ha'el, Agadol, Agibor, Ve'anora. Ilav de Amarin hu Moshe Rabbeinu. Si Moïse, notre maître, lui-même ne les avait pas dit dans la Torah, Ve'oraita, dans la Torah, Va'atouan, Shekneset Agdolam, Ve'taknin hu Batfila, et qu'ensuite, ceux qui ont fixé le rituel des prières, un Shekneset Agdolam, les enseignants de la grande assemblée ne les avaient pas confirmés dans la formule de la prière, la havena nicholin le memar lehu. Nous ne pourrions pas les dire. Veat amart kulehai veazalt. Et toi, tu dis tout cela et tu continues. Non seulement tu le dis de toi-même, mais tu continues à en ajouter. Je termine la lecture du texte et nous reviendrons sur chaque point en particulier. Et sous-entendu, ça veut dire tu n'as pas le droit. Machal, à quoi cela ressemble? Le Melech Bassar Vadam, un roi de chair de sang, Shaulo Elef Alafim Dinere Zahar, qui possédait des milliers de milliers de pièces d'or, Vayu Mekal Sinoto Beshel Kesef. Et on le louait de cela en disant qu'il avait des pièces d'argent. C'est-à-dire, cette tentative de louange est en réalité aboutie à une dépréciation. Et. Peut-être que je vais interpréter tout ce point-là, parce que dans tous les cas, la signification des termes de louange que j'adresse à Dieu ne peut avoir qu'une signification humaine. Alors que je prétends dire la louange de ce que signifie Gadol, Gibor, Nora pour Dieu en tant que Dieu, je n'arrive dans tous les cas à dire, et a priori je suis limité à cela, que ce que peut signifier ces termes, Gadol, Gibor, Nora pour l'homme. C'est la différence entre Zahav et Kesef. C'est clair? Va'alo gnai hulo. Alors que tu veux dire une louange, en réalité, c'est un mazegnai, blam par blam. Comment on dit en français? L'inverse de louange. Gnai.
Reproche.
Ça peut être, non? Blamé.
Blamé.
Blasphémé.
Non, gnai, c'est pas blasphème.
Des mots.
Attendez, je cherche le terme en français, mais je vais vous expliquer le sens. Shevar, c'est la louange. Gnai, c'est le contraire de la louange.
Médisance.
Non, pas médisance. Quand on déprécie quelqu'un. Bon, vous avez compris l'idée au moins, mais le mot m'échappe. Gnai, c'est. Le sens le plus général, c'est un blâme. Par exemple, quand on veut dire ce qu'il y a de favorable dans une chose, ça c'est Shevar. Quand on veut dire ce qu'il y a de défavorable dans une chose, c'est Gnai. C'est négatif, okay. Mais comment est le terme en français? J'ai oublié, enfin, ça ne revient pas. Ça veut dire que l'entreprise, c'est l'entreprise de la louange, et finalement le résultat, c'est un résultat inverse. Tu as voulu dire la grandeur de Dieu, finalement, tu emploies des mots qui ne peuvent que le déprécier. Je crois que le principe qu'il y a là, est un principe fondamental les mots que nous employons ne peuvent avoir, nous allons prendre ensuite des exemples, ne peuvent avoir que le sens que nous leur donnons pour le niveau de l'identité humaine. Or, nous prétendons louer Dieu en tant que Dieu avec une louange du niveau de l'identité humaine. Et ensuite, nous verrons. Prenons un exemple. Et je vais essayer de vous expliquer l'exemple que nous allons prendre, Alpia Kabbalah, mais enfin sans vous citer la catégorie de la Kabbalah elle-même. Sinon, on ne peut pas comprendre ce qui est indiqué ici. Prenons par exemple l'adjectif de Gibor. Gibor. Je vais faire l'analyse de ce qu'est ici le projet de la louange. Dire de Dieu qu'il est Gibor. Dire de Dieu qu'il est vaillant, fort. Quelle est la catégorie théologique? La toute-puissance. C'est-à-dire, l'effort qu'il faut faire, c'est essayer de comprendre en quoi cela peut être une louange de dire de Dieu qu'il est Gibor, qu'il est puissant. Est-ce que cela pourrait être autrement? Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est puissant dans l'intention de dire sa louange, ça veut dire que il n'aurait pu ne pas l'être. Mais le projet de la louange implique, enveloppe un risque de blasphème. Dès que c'est reporté à l'être absolu qui est Dieu. C'est la raison pour laquelle Maïmonide a enseigné à ce propos une doctrine qui est très connue, qui s'appelle la doctrine des attributs négatifs. C'est-à-dire que dire de Dieu qu'il est grand, ça voudrait dire, selon Maïmonide, qu'on dira de lui qu'il n'est pas petit. Dire de Dieu qu'il est fort, ça veut dire qu'on dira de lui qu'il n'est pas faible. Je vous avoue que je ne suis jamais arrivé à comprendre l'intérêt de cette doctrine. Parce que, qu'est-ce que ça résout?
Mais ça évite précisément de donner la mesure de la grandeur. Dire qu'il n'est pas...
Alors, il vaut mieux ne rien dire, ce que dit la Gemara. Si Moïse ne l'avait pas dit dans la Torah, nous n'aurions pas le droit de le dire. Je pense que la seule manière d'expliquer cette doctrine de Maïmonide, ensuite je dirai comment les kabbalistes expliquent cela, c'est ceci. Maïmonide doit donner une explication par le fait que nous ne pouvons pas faire autrement que de voir qu'effectivement, dans le langage de la Torah, il y a des adjectifs de louange pour nous. Mais, étant donné que nous ne pouvons pas les comprendre par rapport à l'être de Dieu lui-même, par rapport à l'absolu, parce que nous découvrons tout de suite que cela n'a aucun sens de projeter la définition d'un être qui est au-delà de notre entendement. Alors, je vous emploie des catégories simples pour ne pas trop compliquer avec des termes philosophiques, mais vous comprenez la gravité du problème. Alors, étant donné que ces termes se trouvent dans le Mikra, que ces termes se trouvent dans le vocabulaire biblique, alors Maïmonide doit proposer une explication. Que en aucun cas il peut y avoir commune mesure entre ce que signifie par exemple l'adjectif de grandeur appliqué à l'homme ou à quoi que ce soit du monde et ce même adjectif appliqué à Dieu, donc d'où cette théorie des attributs négatifs qui en réalité le Lashon HaKodesh veut indiquer que c'est pour exclure la notion contraire. Bon, je vous cite la doctrine comme elle est, mais en fait on ne voit pas qu'est-ce que ça peut résoudre.
Mais dans le Shiratayam, il y a des attributs. Il y a différents.
Très bien.
Alors,
justement, mais...
Alors, il y a quand même des...
Mais oui, et par exemple, cela, la Gadol, la Gibor, Vanora, Moïse a employé ces trois adjectifs dans l'enseignement de la Torah. Vous savez qu'ensuite... non, je ne veux pas trop entrer dans le détail, mais chez les prophètes, nous voyons que soit l'un, soit l'autre des attributs est évacué, mais Hachek Nesategla les restitue. C'est un autre thème pour lui-même, qui est connu d'ailleurs. Et vous donnez d'autres exemples. Ça se rattache au problème général de ce qu'on appelle en langage théologique les anthropomorphismes. C'est-à-dire la Torah emploie un vocabulaire apparemment anthropomorphique. Le problème est beaucoup plus général. Par exemple, lorsque la Torah parle de la main de Dieu, ou tout simplement le fait de dire que Dieu parle. Kilshon ben Adam. Kilshon ben Adam. Alors je vais revenir à ça tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle les anthropomorphismes. Alors en général, le système d'explication que propose Maïmonide, C'est-à-dire que c'est pour nous faire comprendre de façon imagée ou de façon figurée, le Shaber et Taozel, ce que la Torah veut dire de Dieu, mais que nous ne pouvons pas le comprendre de façon positive. C'est-à-dire lorsque nous disons que Dieu est grand, et je reviendrai plutôt Gibor, vaillant, lorsque nous disons que Dieu est fort, ça n'a pas le même sens que lorsque nous disons qu'un homme est fort. Si nous attribuons le même sens, anthropomorphiquement, c'est un blasphème. Parce que lorsque nous disons d'un homme qu'il est fort, c'est pour le louer d'une éventualité qu'il aurait pu ne pas l'être. Or, il l'est. Mais nous ne pouvons pas dire cela de Dieu, ce serait blasphématoire. Alors c'est pourquoi Maïmonide dit que les attributs doivent être entendus comme attributs négatifs. Dire que Dieu est grand, ça veut dire qu'il n'est pas petit. Alors il vaudrait mieux ne rien dire. Ce que dit la Gemara, si la Torah n'avait pas dit, nous n'aurions pas le droit de le dire. C'est clair? Et Maïmonide ajoute, enfin c'est moi qui ajoute pour expliquer Maïmonide, puisque ces termes sont dans la Torah, il faut bien leur donner une explication. L'explication de Maïmonide, c'est les attributs négatifs. Et je crois très sincèrement, il y a là de sa part un enseignement d'ordre pédagogique, parce qu'il veut exclure l'idée d'une définition, parce que toute définition positive est une limitation. Là, nous retrouvons la catégorie de la limitation. Alors que les kabbalistes se sont violemment opposés à cette thèse. D'abord, il faut inverser le critère de référence. Et lorsque la Torah emploie, par exemple, veut employer une notion abstraite, eh bien, elle emploie une notion abstraite. Lorsque la Torah dit « Tzedek, Tzedek, Tirdof », lorsque la Torah dit « Tu rechercheras la justice », elle sait employer une notion abstraite, la justice. Okay? Donc, vous comprenez ce que je veux dire? La Torah n'a pas à sa disposition qu'un langage anthropomorphique. Si, par exemple, pour dire la main de Dieu, elle veut dire la force de Dieu, elle sait dire la force de Dieu. Par conséquent, lorsqu'elle dit la main de Dieu, c'est bien la main de Dieu qu'elle veut dire. Mais où est l'erreur? C'est que nous croyons que le modèle est dans la main de l'homme et que c'est la main de Dieu qui comparait la main de l'homme. En réalité, c'est l'inverse. En réalité, nous ne savons pas ce que c'est qu'une main. Lorsque la Torah dit la main, nous ne savons pas ce que c'est. Mais en fin de compte, nous savons que dans notre monde à nous, à l'échelle humaine, cette réalité absolue dont la Torah parle en disant la main, en fin de compte, c'est cela pour nous. Vous vous rappelez un peu ce que je faisais allusion hier en parlant de des avions. Alors je passe avec Hana. Okay? Tout à l'heure, tu me rappelleras de dire Tichidouche sur Amalek parce que c'est important. Puis ça se relie aussi à l'étude d'hier soir. Vous voyez, ça veut dire que nous ne connaissons. C'est l'enseignement des kabbalistes exactement l'inverse de celui de Maïmon. Ce n'est pas que le sens du mot a son sens positif pour l'homme et par comparaison anthropomorphique on l'emploie pour Dieu, c'est l'inverse. Nous ne savons pas ce qui fait qu'une main est une main. Mais ce qui fait qu'une main est une main fait partie de l'absolu. Et en fin de compte, à notre niveau de diminution d'identité, ce qui fait qu'une main est une main, c'est notre main, Yad. Alors, donc, Yad Hashem, c'est une désignation positive. Et on emploie Yad pour l'homme par comparaison avec Yad de l'absolu. Ou Aïn, ou Rechenana, ou Dibour. Est-ce que c'est clair? Oui? Bon. Alors, je vais un peu plus loin.
Il y a quand même des notions abstraites de Moshe. El Rafou, Rechanon, El Rafaim, Rafaim. Déjà, puisqu'on parle d'erafresen, erhafaim, donc il y a déjà une chose quantitative qui change, n'est-ce pas?
Non, mais malgré tout, ça c'est concret. Même de dire que Dieu est miséricordieux, tout ça n'a de sens pour nous qu'à l'échelle où l'homme l'est. Mais ce n'est pas un blasphème de dire que Dieu aime à la manière dont l'homme aime, que Dieu veut à la manière dont l'homme veut, est-ce que c'est pas blasphème?
Oui, mais c'est ce qu'il dit. Dans la Torah, il n'y a pas.
Justement,
je ne comprends pas.
Attendez, je reprends l'analyse. Puisque c'est dans la Torah, alors Maïmonide doit expliquer dans quel sens ça va. Okay? Le principe de l'explication de Maïmonide, c'est l'anthropomorphisme. Ça veut dire que la Torah emploie des termes qui n'ont de sens que pour l'homme, pour nous dire par comparaison ce qu'elle veut dire pour Dieu. Okay? Et Maïmonide ne peut pas nier que ces termes sont employés dans la Torah. Mais il nous dit, faites attention, ils n'ont pas de sens positif. S'ils avaient un sens positif, ce serait un blasphème de diminution. Un timtsum. Okay? Ils ont un sens négatif. On veut dire, on veut nier le contraire. Lorsque la Torah dit que Dieu est bon, ne crois pas qu'elle te dit que Dieu est bon à la manière dont l'homme est bon. vous voyez que Maïmonide se méfie de tout anthropomorphisme, mais elle veut dire qu'il n'est pas méchant. Bon, j'ai des années réfléchi à cette doctrine de Maïmonide, et en fin de compte, je me suis rendu compte que la seule manière de la justifier, c'est de la définir comme un procédé pédagogique. Parce que ça résout aucune difficulté. La difficulté de départ, elle revient. Et qu'est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas méchant? Est-ce qu'il pourrait l'être? Le même blasphème serait interdit. Bon, nous allons finir, si vous voulez, avec la définition de la thèse de Maïmonide. Je voudrais aborder très rapidement celle des kabbalistes.
Justement, je voulais poser une question là-dessus, parce que dans l'échange de Strigoudov, quand Moshe a demandé la vire qu'il aurait aimé à Adam Achai, alors Dieu lui dit la vire trouvée à Al-Panecha, et après, il récite l'échange de Strigoudov. Elle n'a pas même la préservée.
La même question.
Oui, la même. Bon, la question qui me pose dans. Ça se pose aussi dans mon Moré du Fri, mais
ça n'est pas résolu.
Pourquoi Tovi Al-Panecha, donc ça, c'est, disons que ça c'est le monde scientifique qui lui a fait montrer, ou la réalité physique, et après il enchaîne sur l'échange extrémidote. Pourquoi Dafka l'échange extrémidote et pas autre? Pourquoi, je sais pas moi, d'autres qualités? Pourquoi choisir
La question est un peu déplacée dans ta question. Je veux dire ceci. Quels que soient les midot que Dieu révèle à Moïse, avec des mots qui n'ont de sens pour nous que par comparaison avec nos midot. Mahu rachum afata rachum. Mahu hanun afata hanun. Pour comprendre qu'est-ce que c'est que Dieu est rachum, qu'est-ce que Dieu est hanun, je ne peux le comprendre, thèse de l'anthropomorphisme, que quand je sais qu'est-ce que c'est qu'un homme qui est rachum ou un homme qui est hanun. Et Maïmonide rejette ça en disant, quels que soient les midot, rejette en disant, la Torah a simplement employé un langage humain pour nous faire comprendre ce qu'elle veut dire. Mais nous n'avons pas le droit d'attribuer une connotation, une signification positive à ce terme. Parce que ça voudrait dire, comme dit la Gemara, alors que je veux parler de quelqu'un qui est à l'être absolu, j'en parle en louange de l'être relatif. Alors que je devrais parler des pièces d'or, je parle des pièces d'argent. C'est une dépréciation. Nous sommes toujours dans le courant de Maïmonide. Mais quel est le principe? C'est là que je commence la critique, si vous voulez, l'analyse critique. Quel est le principe du thèse? C'est que nous croyons que le sens positif de ces termes est d'abord à l'échelle humaine, mais c'est l'inverse. En réalité, le sens positif de ces termes est d'abord à l'échelle de l'absolu, et ce n'est que par comparaison que nous employons ces termes pour parler de l'homme.
Mais Zabour, à son image, elle a été créée.
Non, ça va trop nous compliquer.
C'est l'absolu.
Ça veut dire que. Et je reprends cette expression simple. Si la Torah voulait dire la force de Dieu, elle sait dire la forme de Dieu. Pourquoi elle dit la main de Dieu? Donc c'est nous qui ne comprenons pas ce que signifie Yad. Ce n'est qu'en fin de compte, dans notre monde à nous, que cette réalité d'en haut, qui est Yad, devient chez nous cela. La comparaison est dans l'autre sens, diront les kabbalistes. Et je vais aller beaucoup plus loin dans l'analyse, mais d'abord l'RVA. Vous avez cité une expression très importante. À propos de l'anthropomorphisme, et vous allez voir d'où vient l'erreur. La Gemara dit « Dibera Torah Kilshon Bene Adam ». Kilshon, de l'autre Bilshon. La Torah a parlé selon la langue des fils de l'homme. Okay? « Dibera Torah Kilshon Bene Adam ». On remarque une chose. Quand est-ce que la Gemara cite ce principe? C'est quand on n'arrive pas à comprendre ce que le texte dit. C'est pas quand on arrive à le comprendre. Si ça voulait dire ce que veulent dire les rationalistes en parlant de l'anthropomorphisme, pour nous faire comprendre, alors la Torah se sert du langage de l'homme, d'accord, mais en réalité c'est chaque fois qu'on ne comprend pas un texte que la Torah nous dit, que la Gemara nous dit, Dibera Torah Kitchum Bene Adam. Vous y êtes jusque là? Je vais aller plus loin. C'est clair. Et il n'y a pas d'exception. Chaque fois qu'un texte est difficile, la Gemara explique en disant, voilà pourquoi tu ne comprends pas. Parce que la Torah a parlé comme le langage de l'homme. Ça va mieux? C'est-à-dire que c'est nous qui ne parlons pas comme le langage authentique des
de l'homme de Adam ou l'homme Adam?
Voilà. Adam, Bnei Adam. T'as compris? Vous avez compris? C'est-à-dire la Torah parle le langage vrai. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Si tu étais capable de parler le langage de Bnei Adam, alors tu comprendrais ce que dit la Torah. Je vous ai complètement inversé l'explication. Et il n'y a pas d'exception. Vous avez compris? Alors c'est une règle que je vous cite souvent. Si vous êtes dans une impasse, dans le raisonnement de la Gemara, il faut mettre le problème dans l'autre sens. Et là, ça se résout. Vous savez, c'est clair? Dès que vous avez une difficulté, inversez les données, vous verrez que ça se résout. Vous savez, c'est clair? Si vous voulez, je pourrais vous donner des exemples, d'ailleurs, dans cette Gemara. Tout le monde a bien compris. Alors, ça veut dire que, en réalité, ces adjectifs ont bien un sens positif. Mais nous ne pouvons pas les comprendre en prenant comme règle de mesure leur définition au niveau de l'identité humaine. Il faut donc le comprendre en prenant comme règle de mesure leur sens absolu. Est-ce que c'est clair? Alors je vais prendre tout de suite un exemple pour Gibbon. Nous avons une Mishnah de Pirkei Avot qui dit ceci. Ezehu Gibor, Akovesh et Kitsro. Et elle cite un verset qui est Ve Tov. Vous avez la Mishnah en tête? Le verset qui citait c'est Ve Tov Gibor Milochet Ir. Non, le début du verset n'est pas exact. Moshe Levoucho Milochet Ir. C'est sûr que le verset est comme ça. Personne n'a une Mishnah de Pirkei Avot là? Un Sidou, vous l'avez dit. Bon, on va voir. Ou mon chef de Rochon, mais l'Ochet. Le verset qui est cité dit ceci. Quelqu'un qui est capable d'être patient est supérieur à quelqu'un qui est vaillant, et quelqu'un qui domine son propre esprit est supérieur à celui qui conquiert une ville. Parce que quelle est la définition habituelle qui est donnée de la Gouloua, de la vaillance, à l'échelle humaine? C'est le Lohed Ir, celui qui va pouvoir conquérir, subjuguer une ville. Ça veut dire donc que la définition intellectuelle de cette nuance, de dire de quelqu'un qui est vaillant, un héros, c'est qu'il est plus fort que quelqu'un d'autre. Être Gibor, c'est donc être plus fort qu'un plus faible. Ça, c'est pas la vaillance. C'est tout simplement que l'autre est plus faible. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors c'est pourquoi le verset qui est cité par la Mishnah dit « Quel Ezehu Gibor ?» À Kovesh et Kitsru. Qui est vraiment un vaillant? C'est celui qui est capable d'être plus fort que lui-même et non pas d'être plus fort que quelqu'un d'autre. Parce que s'il est plus fort que quelqu'un d'autre, c'est tout simplement que l'autre est plus faible. Alors c'est pas qu'il est vaillant, c'est que l'autre est faible. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors essayons de comprendre que peut signifier par rapport à Dieu lui-même cette définition de la vaillance. Alors vous voyez, c'est que là, j'utilise les données de la Kabbalah. Mais vous comprenez que la thèse des kabbalistes est exactement opposée à celle des rationalistes qui se réfèrent, de façon d'ailleurs 14 fois inversée, au principe de l'anthropomorphisme. C'est pas pour m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, la force de Dieu, que la Torah dit la main de Dieu. C'est parce qu'elle emploie un langage vrai et positif. Hein? Et si elle voulait dire la force, elle aurait dit la force. Elle n'est pas gênée pour employer des termes abstraits. Et les midotes que vous avez citées sont des midotes très concrètes, pas du tout abstraites. Mais c'est donc l'inverse. Nous employons un langage qui finalement utilise des mots par imitation de ce qu'ils signifient par rapport à l'absolu. Et donc, en réalité, ce que la Gemara veut nous interdire, c'est d'employer ces termes avec le sens qu'ils ont pour l'homme. Et nous n'avons le droit d'employer que El Agadol, la Gibor Véanora, que parce que nous les utilisons dans le contexte où Moïse les a dit, même si nous ne le comprenons pas, la Kavana est que dans le sens que Moïse les a dit. Alors, c'est clair jusque-là ?